te remercie pour ta parole.
Mana urakozekubwa ijambo ryawe.
Ta parole est puissante, elle est inspirante.
Mana ni ry'ubushobozi kandi riraduhumeka.
C'est ta parole qui transforme les situations.
Niryo rihindura ibintu.
Qui donne la vie.
Niryo ritanga ubuzima.
Seigneur, aux vies les plus désespérées.
Kubataye ivyizigiro.
Qui donne la vie aux pécheurs perdus.
Ritanga ubuzima.
Qui amène la guérison à celui qui est malade.
Niryo rizana gukira ku mugwayi.
Et qui amène l'inspiration à celui qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Père, je veux te remercier. Merci pour cette parole. Je prie vraiment pour que cette parole puisse transpercer les cœurs ce matin. Et amener une puissante transformation dans les vies. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia.
Amen.
Ce matin, nous allons parler de la façon dont nous percevons. C'est plus que voir, effectivement, c'est percevoir. La façon dont nous percevons Dieu. La façon dont nous percevons les situations. La façon dont nous percevons les choses. Où nous percevons les personnes. Où nous percevons l'ennemi. C'est ce qui va déterminer notre vie. Votre vie va être déterminée par vos façons de penser, vos façons de percevoir. Et ce matin, je vais vous montrer la puissance qu'il y a dans la vision que vous pouvez avoir de votre vie. Parce qu'il est très important que vous compreniez que votre vie est façonnée à partir de votre perception. Notre vie est basée sur un système de croyance. Si aujourd'hui tu es sauvé et tu es dans le royaume de Dieu, c'est parce qu'un jour tu as cru en Jésus. Un jour tu as été confronté à l'évangile de Dieu. Et tu as perçu ta vie comme misérable. Mais la parole de Dieu t'a donné une perception différente. En te disant, tu peux être sauvé. Tu peux être délivré de ton péché. Ta vie peut être transformée. Et à ce moment-là, tu as commencé à percevoir les choses d'une façon différente. Tu as cru. Tu as appliqué la parole de Dieu. Tu t'es repenti de tes péchés et tu as été sauvé. Toute notre vie est basée sur la façon dont nous percevons les choses. Et ce matin, je vais vous montrer un principe très important qui va permettre de motiver votre foi. Et je vous rappelle que Jésus a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Mais pour que ta foi soit puissante, il va falloir que tes façons de penser soient puissantes. Et souvent, c'est le problème que beaucoup de chrétiens ont. Ils ont du mal avec leur façon de penser. Je ne connais pas un homme ou une femme qui accomplit de grandes choses pour le Seigneur et qui a une pensée qui est faible, qui a une mentalité qui est petite. Ça ne peut pas se produire. Si vous avez une mentalité sur les petites choses, si vous avez une mentalité négative, si vous n'avez aucune perspective et perception des choses de Dieu, alors que vous êtes né de nouveau, eh bien il ne se passera rien dans vos vies. Et ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, étant né de nouveau, que vous avez une mentalité divine. Et ça, il faut le comprendre. Le fait d'avoir reçu Christ comme votre sauveur personnel vous a amené dans la porte, par la porte du royaume, et vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Maintenant, Votre mentalité, vos façons de penser,
c'est
ce qui va façonner les fondations de votre foi. Il y a une puissance dans la vision. Ce que vous voyez devant vous va motiver votre foi. Si vous ne voyez que des choses négatives, si vous ne voyez que la défaite, si vous voyez le diable comme étant grand, si vous voyez Dieu comme étant un Dieu qui est méchant, qui vous veut du mal, ça veut dire que vous avez une mauvaise perception des choses. Si vous ne voyez pas que Dieu a un plan excellent pour votre vie, vous avez une mauvaise perception des choses. Je vais vous montrer sur un exemple à propos de la perception et comment quelqu'un n'a pas réussi alors que les autres ont réussi. C'est dans Matthieu 25. Je vais vous aider à comprendre ce principe. Parce que je veux que vous travailliez dans vos mentalités. Je veux que vous ayez des visions élevées de ce que Dieu veut faire dans vos vies. Sinon, vous serez un échec dans cette vie. Et vous serez quelqu'un qui dirait à Dieu le jour où vous allez le rencontrer. Le jour où vous allez quitter votre corps, votre âme et votre esprit vont quitter votre corps. Et que vous allez aller au troisième ciel rencontrant Jésus. Vous allez être là. Et vous allez dire à Dieu, ben Dieu, j'ai pas fait ça parce que. Regardons ensemble cette parabole des talents. On la connaît bien, mais je vais vous montrer la perception des gens qui ont reçu un talent. Je vais la lire en français simplement, parce que ça va être un peu trop long si on la lit en kirundi aussi. Il en sera comme d'un homme, verset 14, Matthieu 25, qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien et bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que tu récoltes où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. » Quelle est la différence entre ces 3 personnes?
Trois
personnes qui vont recevoir quelque chose de précieux. Un talent, à cette époque-là, ça représentait une immense somme d'argent. Nous le savons, il y en a un qui en reçoit 5. L'autre 2. L'autre 1. Qu'est-ce qui a fait le succès des 2 premiers et l'échec du 3e? Est-ce que c'était le manque? Est-ce que c'était les circonstances? Non. C'était uniquement la perception des choses. La façon dont une personne va percevoir ce qu'il a à disposition. La façon dont il voit quelque chose, pour lui, est-ce un potentiel, une opportunité, ou au contraire, quelque chose devant lequel il ne sait pas quoi faire et ça va devenir un échec. C'est une question que vous devez vous poser dans votre vie, frères et sœurs. Dieu nous a fait des dons différents, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas à nous comparer les uns les autres, mais nous devons réaliser une chose. chose. Que ce que Dieu nous a donné, nous devons le faire fructifier. La Bible nous appelle à la productivité en tout genre. Et quand je parle de productivité, je ne parle pas forcément dans des choses. C'est dans les âmes perdues qui viennent dans le royaume.
Hein.
C'est la productivité aussi dans la prière. C'est la productivité dans les excellentes relations. C'est la productivité financière aussi, oui. C'est la productivité dans toutes les choses que Dieu a pu te donner. Ce que tu vois devant toi, est-ce que pour toi c'est une opportunité de changer et d'amener la multiplication et la productivité dans ta vie? Ou est-ce que c'est une opportunité pour te plaindre, te donner des excuses et empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Ici, c'est trois types de personnes avaient reçu quelque chose, mais il y en avait deux qui avaient une perspective de productivité, qui ont saisi une opportunité pour arriver à quelque chose. Et quand le maître est revenu, le maître leur a dit: c'est bien, bon, fidèle serviteur. Le troisième n'a pas perçu les choses de la même façon. C'est la seule différence entre ces trois personnes. La perception par rapport à ce qu'ils ont pour en faire soit de la productivité, soit en faire un échec. Quel type de personne es-tu ce matin? Si tu veux motiver ta foi, il va falloir que tu changes la perception des choses que tu as. Par exemple, il y a des gens qui disent: moi, quand je prie, quand je prie, il
n'y
a rien de spécial qui se passe. Mais je vois mon frère, ma soeur ici, oh, quand il prie ou elle prie, oh, apparemment le ciel est ouvert pour
nous.
Mauvaise perception. Tu as une mauvaise perception de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont une mauvaise perception de Dieu. Ils ont une mauvaise perception des autres. Ils ont une mauvaise perception des choses. Ils ont une mauvaise perception de l'église. Et ça les amène dans les échecs. Ça les amène à ne pas réussir ce que Dieu veut qu'ils réussissent. Tu as des dons. Dieu te destine à ce que ces dons soient fructifiés dans ta vie. Tu ne pourras jamais t'épanouir et glorifier Dieu au travers de tes dons si tu as le mauvais type de perception. Parce que cela ne va pas motiver ta foi.
Et
la mauvaise perception, les mauvaises façons de penser empêcheront ta foi d'être pleinement produite et animée. Ça veut dire que tu vas écouter la parole de Dieu. Sur le moment, tu vas être excité, tu vas être tout content. Et quand il va s'agir d'amener ça à la réalité dans ta vie, tu vas être bloqué parce que tu n'as pas travaillé la perception. Dans Actes 2, verset 17, la Bible nous dit quelque chose d'important. On va parler vision, on va parler de voir des choses ce matin. Parce que j'aimerais remettre les choses à leur place. Si vous voulez avancer dans la vie, il va falloir que vous voyez des choses à l'avance. Il va falloir que vous voyez des perspectives à l'avance. Si vous ne voyez rien devant vous, ou que des choses catastrophiques devant vous, ça veut dire que vous n'avez aucune stimulation pour votre foi. Votre foi doit être stimulée. C'est tout à fait normal. Elle sera stimulée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit créer en vous d'abord un changement de mentalité. Ensuite, elle va créer la foi. Et cette foi dans laquelle vous allez persévérer va amener la puissance de Dieu à amener les choses à la réalité. Il va falloir que tu apprennes à voir des choses devant toi, à voir qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu t'a préparées d'avance, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il va falloir qu'ils creusent dans leur façon de penser afin d'être stimulés dans leur foi, qui va être produite dans leur esprit, dans leur cœur, pour amener les choses à la réalité. Si vous ne fonctionnez pas comme ça, vous n'arriverez à rien. Et c'est souvent le problème avec les gens qui prient. Beaucoup de gens sont en train de prier, mais ils n'ont pas de vision, ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas médité la parole. Alors ils sont là, ils prient, mais dans leur tête, il n'y a rien. Il
n'y
a rien si ce n'est du négatif, c'est leur situation, leur problème. Leur foi n'est pas soutenue par leur mentalité. Ils sont là, ils ne voient rien devant eux. Et je vous assure, la vie chrétienne, c'est quelque chose de simple. La vie chrétienne est très simple. C'est simplement découvrir cette relation extraordinaire d'amour avec Dieu, sachant qu'il a des plans les plus extraordinaires. Et ces plans-là, Dieu veut te les montrer régulièrement. Et il veut que tu rentres dans ces choses. Et tu vas les voir se dérouler devant toi. Mais tu dois être motivé. Ton imagination aussi doit travailler par rapport à ta foi. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Si ta tête est constamment opposée à ce que ton esprit, ton cœur te dit, tu ne vas pas avancer avec Dieu. Parce que constamment, tu vas être partagé entre le monde surnaturel de Dieu et le monde naturel des circonstances. Dieu nous dit dans sa parole quelque chose pour nous aider. C'est Pierre qui va commenter la Pentecôte. Et vous savez, quand il y a eu la Pentecôte, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est seulement se sentir bien. C'est vrai que quand la présence de Dieu vient sur nous, c'est la paix, la joie, c'est... Des fois, tu es rempli à déborder. Et tu fais des expériences extraordinaires dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est inspirer ta vie au travers de cela. Dieu veut que tu sois rempli pour que tu aies une vie inspirée. C'est-à-dire que tu vois des choses devant toi que tu vas accomplir en balayant tous les obstacles. Voilà ce que Paul va dire au verset 16 et 17. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Ariko ibyo byavuzwe n'uvugishwa n'Imana Yoweli ati bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize ngo zosuka mpemu wanje kubare no mubiri bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'imisore yanyu zobona ibyo yeretswe n'abatama banyu bazorota inzozi.
Et ici Dieu nous parle de vision et de songe.
Hano Imana itubwira iby'inzozi ikatubwira n'ibyo kwerekwa
prophétie.
Bakatubwira n'ikuvugishwa.
Il nous parle de choses qu'il veut nous montrer à l'avance.
Ikatubwira ibintu igomba kutwereka bitaraba.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre vie.
Ikirero ni kintu gihambaye mu buzima bwacu.
La parole de Dieu,
ijambo ry'Imana,
va nous aider à grandir dans le Seigneur.
Iradufasha gukura mu Mana.
Mais tu as aussi besoin d'inspiration.
Ariko kandi urakenerwa guhumekerwa. Guhishurirwa.
De choses que Dieu va te montrer à l'avance.
Kubona ibintu Imana ikweretse mbere yuko biba.
Pourquoi? Parce que cela va t'amener à dire, voilà, Dieu veut que je prenne telle direction. Et à ce moment-là, ça va motiver, ça va stimuler ta foi. Et ça va aussi stimuler ta pensée. Vous savez, souvent, les gens ont dit, ah... Non, non, tout ce qui est pensé, c'est des histoires de psychologie, etc.
etc.
Je suis désolé, Dieu nous parle souvent de la pensée dans sa parole. Si vous n'avez pas... Viens, je vais vous donner juste un exemple. Regardez Romains
12.
Je peux vous donner exemple sur exemple. Je pourrais donner... Rien comme ça, je pourrais vous trouver plein de textes. Dieu nous parle de la pensée dans sa parole. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'avant qu'une chose se réalise, ça va passer par ta pensée, par ton imagination qui va être travaillée par l'Esprit de Dieu, qui va être forgée par la parole de Dieu. Tes systèmes de pensée, c'est la façon dont tu perçois les choses. Rappelle-toi tout à l'heure ce qu'on a vu dans Matthieu 25. Ces trois serviteurs avaient reçu chacun des dons. Les deux qui ont réussi avaient une perspective, une perception de productivité. Le troisième a échoué parce qu'il n'avait aucune perception de productivité. Il avait peur de son maître. Il ne savait pas quoi faire avec son talent. C'était uniquement sa perception. Ils étaient tous dans un même terrain. Apparemment, ils n'étaient pas très loin les uns des autres. Et ils devaient produire quelque chose. Et la perception des deux premiers leur a permis la productivité. Parce qu'ils avaient une vision de réaliser quelque chose. Et dans ta vie, il va falloir que tu travailles pour recevoir une vision pour réaliser des choses. Chapitre 12 de Romains. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de vos façons de penser, de vos mentalités, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui te dirige aujourd'hui? La pensée du monde ou la pensée de Dieu? La mentalité de Dieu ou la mentalité du monde? Qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever? Quelle est la vision que tu as dans ta vie? Ta vision vient de la perception que tu as des choses. La perception que tu as de Dieu. La perception que tu as des gens. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu ne vois rien, mon frère, ma sœur. Tu es exactement ce que Proverbe 29, 18 nous dit. Faisons attention. Parce qu'il y a un moteur, il y a quelque chose qui nous motive dans la vie. Et ce moteur, c'est ce que tu vois devant toi. Proverbe 29, 18. En tant qu'être humain, tu dois voir des choses devant toi. Moi, je fonctionne constamment comme ça. Je vois les choses, les perspectives de l'avenir. Quand je dis je vois, c'est que je passe du temps à méditer sur des choses. J'écoute mon esprit. Et de là viennent des trésors inestimables. Des choses grandioses. Immenses. Je ne regarde pas là où je suis aujourd'hui. Je regarde là où Dieu me veut prophétiquement. Parce que si tu ne te vois pas comment Dieu te veut prophétiquement, alors tu échoueras dans ta vie. Et tu pourras dire, Seigneur, je veux glorifier ton nom. Et bien tu ne pourras pas glorifier Dieu. Parce que pour glorifier Dieu, il faut que tu puisses clairement faire ce pour quoi tu as été destiné. Si tu loupes ta destinée, tu pourras prier, Seigneur, je veux te glorifier dans ma vie. Et bien, il ne se passera rien. Ça veut dire que ta vie aura été inutile. Pourtant, ta vie est une semence pour ce monde. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'amener dans des choses extraordinaires. Tu vas voir à l'avance. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, ou le peuple s'égare, ou le peuple meurt. Et ça, c'est classique. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Quelle perspective tu as? Comment est-ce que tu perçois les choses? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ce qui va motiver aujourd'hui tes décisions. C'est ce qui va t'amener à prendre les bonnes directions. Si tu ne vois rien devant toi, il ne se passera rien. Je vais vous dire une chose, il y a un grand secret ici. C'est la puissance de la vision. La puissance de la vision. Si tu es sans vision, si tu ne vois rien devant toi, si ça veut dire que tu ne perçois rien, et si tu ne perçois rien, tu vas être inactif, improductif dans le royaume de Dieu. Tu vas être stérile dans le royaume de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il ne veut pas que tu termines ta vie avec des « si j'avais su ». Mais Dieu veut que tu finisses ta vie en disant j'ai fini ma course et j'ai accompli la tâche que le Seigneur m'avait donnée. Le Seigneur m'avait montré un certain nombre de choses. Il m'avait donné des visions, il m'avait donné des révélations, il m'avait amené prophétiquement dans certaines choses et j'ai accompli ce que le Seigneur m'avait demandé. Et ça c'est super important, hein. Si vous n'avez pas de vision, ça veut dire que vous manquez de perception. Vous ne voyez pas les choses comme vous devriez les voir par rapport à ce que le Seigneur vous demande. Et ça, c'est super important. C'est ce qui va te motiver. C'est ce qui va t'amener dans des dimensions différentes. Si Joseph était resté dans son trou, en train de se lamenter, certainement qu'il serait mort. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que les événements de leur vie, quand ils les perçoivent d'une façon divine, c'est toujours une opportunité pour aller plus loin. Et ça, tu dois le comprendre. Rappelle-toi, et je vous l'ai souvent enseigné, ce n'est pas ce qui se passe dans nos vies qui est important. C'est la façon dont vous allez gérer ces événements. Ce n'est pas là où tu commences qui est important. C'est là où tu veux aller avec le Seigneur. C'est ça qui intéresse Dieu. Ne regarde pas d'où tu viens. Regarde où tu veux aller. Et si tu veux aller quelque part, il faut que tu vois les choses. Il faut que tu changes tes façons de penser. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, il va falloir que tu changes tes mentalités. Que tu changes tes perspectives. Que tu changes ta perception. Sinon, tu seras malheureux. Regardez Proverbe 23, verset 7. Et au verset 7 de Proverbe 23, il est dit quelque chose d'important. Les gens qui ont changé les choses dans ce monde sont des gens qui avaient une vision. Parce qu'ils avaient une perception des choses qui était juste. Selon Dieu. Les gens qui ont amené des changements par la puissance de Dieu, ce sont des gens qui voyaient des choses. Ils voyaient quelque chose. Quelque chose complètement transformé. Complètement changé. Et là, il va falloir que tu fasses attention à ta vie. Voilà la traduction que j'ai. Vous n'avez peut-être pas cette même traduction parce que ce verset en français a été mal traduit souvent. Il est dit: l'homme est tel que sont ses arrière-pensées, les arrière-pensées de son âme. Verset 7, Proverbe
23.
En fait, l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu comprennes. C'est ta mentalité, ta perception. Tes façons de penser qui vont façonner ton univers. L'atmosphère dans laquelle tu vis aujourd'hui est ni plus ni moins le reflet de ce que tu penses. Donc qui va influencer ce que tu crois. Donc ce que tu penses, c'est ce que tu es. Il y avait quelqu'un qui disait: je pense donc je suis. Et c'est une vérité quelque part, c'est une vérité biblique. Il y a quelque chose de spécial que Dieu nous a donné. Vous savez, souvent On a parlé des mauvaises pensées.
Kenshi twaravuze ibyumviro bitari byiza.
On a parlé de la convoitise. La convoitise est quoi?
Ugasanga turavuga ngo kwifuza kwifuza ni
la convoitise, tu es là et tu commences à avoir des images de péché.
Kwifuza ni ngo buringa ugatangura kugira ibyi.
Dans ton imagination.
Mu byumviro byawe ugatangura kubona.
Dans ta mentalité.
Uri kurakora ibyaha wifuza gukora.
Tu te motives tellement.
Ugasanga uri kuri
terine. Au bout d'un moment ta chair dit j'ai envie et j'y vais.
Ugasanga umubiri wawe uragaza ahantu uvuga uti ndabishaka ndabigiyemo nta kundi.
Et ça c'est vrai, c'est, ça fait partie de ce que la parole de Dieu nous enseigne.
Ibyo biri mu byijambo ry'Imana ritwigisha
ni. Mais il y a aussi l'aspect ultra positif et divin de ton imagination.
Ariko kandi wibuke ko hari uburyo ushobora gukoresha ibyumviro byawe neza mu buryo
bw'Imana. Malheureusement, ce n'est pas enseigné ou on ne prêche pas là-dessus.
Ariko birababaje kenshi ntibabyigisha ko.
Bien sûr, cette imagination doit être sanctifiée.
Uko kugira amasanamu cyangwa ibyo bicapo kwiyumvira bikwiye kuba byejejwe n'ibyo.
Vous savez, un architecte, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Un bon architecte, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans l'immeuble qu'il va dessiner avant même qu'il soit devant ses yeux. Vous êtes d'accord avec ça? Un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il est là dans ses façons de penser. Et il est capable de vous pondre, entre guillemets, de faire tout, de s'imaginer quelque chose pour son client. Une maison ou des fois des immeubles gigantesques avec le moindre détail. Comme s'il avait été même dans les colonnes d'évacuation des eaux usées. Cet homme est capable de vous montrer comment votre maison ou votre bâtiment sera terminé. Avant que ce soit construit, il y a eu quelqu'un qui a imaginé quelque chose. C'est une puissance que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain. Les païens l'utilisent. Et les chrétiens, on a l'impression qu'ils sont comme ça en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, ça c'est toute la partie spirituelle. Mais si tu n'arrives pas à relier la partie divine, c'est-à-dire tout ce que tu reçois dans le Seigneur, tout ce que la parole de Dieu te réveille, avec ce que tu vas toi-même mettre à exécution, je vais te dire une chose, les plus grands rêves, les plus belles choses dont tu as rêvé, elles vont être enterrées avec toi. Et tu seras malheureux. Parce que tu en auras parlé pendant 20 ans ou 30 ans. Tu auras vu des choses que Dieu t'aura montrées. Tu auras eu envie de faire certaines choses. Tu auras eu tous ces rêves, toutes ces choses extraordinaires que Dieu t'aura montrées. Mais ça sera resté dans le domaine de l'espérance. Parce que tu auras été incapable de relier ce que Dieu t'a montré à la réalité. Et tellement de chrétiens sont
inscrits.
Tellement de chrétiens. Vous leur demandez quelle est votre vision, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Ils vous diront être un bon chrétien. Pasteur, tu ne peux pas prier pour que je sois un bon chrétien. Finalement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon chrétien? Ça veut dire être là le dimanche matin, chauffer la chaise de l'Odéon Palace, amen, alléluia, écouter la parole de Dieu, donner ses dîmes et ses offrandes. Ça c'est bien. Mais il y a beaucoup plus pour toi. Il y a la vision que tu veux réaliser avec toi. Il y a tout ce qu'il a mis dans ton cœur. Tout ce qu'il va falloir que ton imagination sanctifiée puisse amener à la réalité. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment réaliser des choses avec Dieu, il va falloir que tu rêves, que tu penses, que tu imagines les perspectives divines pour ta vie. Ça, c'est un exercice que peu de chrétiens font. Si tu ne fais pas ça, tu vas te limiter complètement. Tu vas limiter Dieu dans ta vie. Et tu arrive à prier quelque chose que Dieu ne veut ni plus ni moins.
Que
Dieu, sur lequel Dieu veut que tu médites.
Moi,
je passe des heures à ces choses-là. Je passe des heures à rêver au futur. Parce que je sais une chose. Le futur, c'est ce que Dieu veut que je devienne et que je fasse. Et il faut que tu apprennes par le Saint-Esprit à passer du temps à voir les choses de l'avenir divine dans ta vie. C'est ce qui va te motiver aujourd'hui. Joseph, quand il était au milieu des tourments, il avait les yeux fixés, l'imagination fixée sur la promesse que Dieu lui avait faite. Il n'avait pas les yeux fixés sur les problèmes qu'il rencontrait jour après jour. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont trahis quelque part, ils ont les yeux fixés sur la trahison. Et pendant des années, ils sont blessés, ils restent blessés. Il reste détruit. Alors que s'il comprenait simplement qu'il devait utiliser cela comme un marchepied et regarder ce qu'il y a devant eux, mon frère, ma sœur, il est temps de percevoir ce que Dieu veut que tu perçoives. Il est temps de rêver ce que Dieu veut que tu rêves. Il est temps que tu passes du temps, non pas à aller dans toutes les fêtes du coin avec toutes les invitations du coin, à passer ton temps à discuter les petites choses de la vie, mais il est temps que tu regardes devant toi. On va demander au président d'interdire les fêtes, ça serait bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait vraiment passer du temps, frères et sœurs. Mais ne pensez pas que Dieu, vous irez loin avec Dieu. Si vous ne passez pas du temps à rêver les choses de Dieu. Si tu ne passes pas ton temps à rêver les choses de Dieu. Si tu n'iras nulle part. Parce que ta motivation sera seulement au jour le jour. Tu resteras comme les Israélites dans le désert. Ils avaient une perspective jour après jour. Ils étaient incapables de rêver à la promesse de Dieu. Et quand Dieu les a mis au test, quand il a envoyé ses 10 espions, les 12, pardon, espions, il y en a 10 qui sont revenus avec une perception qui était minable. Dieu leur offrait le rêve qui devient réalité. Le rêve d'Abraham qui était pour eux pour qu'il devienne réalité. Et les 10 avaient une mauvaise perception. Ce qui les a amenés à ne pas motiver leur foi et à mourir dans le désert. Parce que ces gens-là ne pensaient qu'à une chose. Au jour le jour, c'était ce qu'il y avait dans leur tête et dans leur imagination. Ils avaient dans leur tête et leur imagination le passé. Mais c'était des gens qui n'avaient aucune imagination sur le futur de Dieu. Et quand ils ont été placés devant les promesses, l'accomplissement des promesses, ils ont été incapables de réagir. La seule chose qu'ils ont vue, c'est des géants, des obstacles, des problèmes. C'est ça qu'ils ont perçu. Et comme ils ont mal perçu la situation, Dieu n'a pas pu amener les choses à leur réalisation. Par contre, il y en a deux qui voyaient loin. Ils voyaient la promesse de Dieu. Ils voyaient les choses qui allaient se réaliser devant eux. Ils avaient rêvé de sortir de ce désert où ils souffraient. Et ils voyaient devant eux des perspectives extraordinaires divines d'un pays où coule le lait et le miel. Et ils ont vu cela devant eux. Ils voyaient le futur. Ils rêvaient du futur. Ils rêvaient de pouvoir établir leur famille dans un pays où ils pourraient construire des maisons, où ils pourraient produire, où ils pourraient glorifier Dieu. Et ça, c'est de là qu'ils avaient cette perspective. Et c'est ce qui les a amenés dans la promesse. Tu ne pourras jamais rentrer dans les choses que Dieu t'a dites, dans une vie extraordinaire, si tu ne passes pas du temps à méditer. À méditer les choses de Dieu, à voir les choses devant toi. Si tu continues à perdre ton temps dans des futilités de droite et de gauche, des petits trucs qui servent juste au jour le jour, tu n'accompliras rien de grand dans ta vie. Certains d'entre vous, vous avez été appelés par Dieu pour faire des choses extraordinaires. Le problème, c'est que vous ne rêvez pas. Le problème, c'est que vous n'avez pas de vision. Dieu vous a parlé. Vous priez ces choses simplement. Et comme si vous étiez une machine et que Dieu devait réaliser ces choses tout seul. Mais vous n'avez pas créé en vous un système de pensée, un système d'imagination qui va vous focaliser sur le résultat plutôt que de vous focaliser sur les problèmes de chaque jour. Regarde ta perspective de Dieu. Comment est-ce que tu perçois Dieu? Les gens les plus misérables, chrétiens nés de nouveau, sont les gens qui ont reçu le Dieu du ciel dans leur vie, qui sont entrés dans le royaume de Dieu, mais qui ont une perception de Dieu qui est religieuse. Et on les voit, ces gens-là. Ils passent du temps dans cette vie comme des gens malheureux, comme des gens tristes, comme des gens malades, comme des gens avec lesquels rien ne va. Vous leur demandez si ça va, ils vous disent non, rien ne va. Ils vous disent je suis malade, les enfants sont malades, j'ai perdu mon boulot, j'ai tel et tel problème, voici ce qui se passe dans ma vie. Et ils sont tout le temps en train de vivre comme s'ils étaient dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien devant
eux.
Et ils vous diront la petite phrase: j'espère que Dieu va faire quelque chose. Et pendant 10 ans, vous allez entendre cette petite phrase tous les jours: j'espère que Dieu va faire quelque chose. On a l'impression qu'ils vont acheter un microscope pour voir ce que Dieu va faire dans leur vie. Pourquoi? Parce que sans vision, le peuple périt. Si tu n'as pas quelque chose dans ton imagination qui est travaillé par l'inspiration divine, tu n'arriveras à rien. Comment est-ce que tu perçois les choses de Dieu? Pose-toi la question. Comment est-ce que tu perçois ton Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui t'aime d'un amour extraordinaire? Ou est-ce que tu vois Dieu comme quelqu'un qui ne te donne pas ce que tu désires, qui est là et qui te frustre? Quelle est ta perception de Dieu? Comment est-ce que tu vois ta relation future avec Dieu? Est-ce que tu vois dans ta vie vraiment un déversement de sa gloire? Ou au contraire, est-ce que tu vois des choses difficiles? Que le Seigneur t'envoie ceci, que le Seigneur te donne, que le Seigneur t'enlève. Comme Jean, que quand il est passé par des moments difficiles, plutôt que d'avoir une perception que cela sera pour la gloire de Dieu et que ce sera une opportunité pour connaître Dieu et faire une rencontre puissante, Job disait simplement: le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, et moi je vais souffrir. Est-ce que c'est ça ta vision de Dieu? Si c'est ça ta vision de Dieu, t'as plutôt intérêt à changer. Comment est-ce que tu perçois les situations? Est-ce que tu perçois les situations pour saisir des opportunités? Les gens qui font avancer les choses dans le royaume de Dieu et même dans ce monde ont compris ce principe de saisir les opportunités dans les terrains les plus difficiles. Ça, c'est un art. De saisir les opportunités dans les terrains les plus difficiles. Il faut apprendre cela. Celui qui apprend ce secret, il y aurait vraiment tout un sermon à faire là-dessus. De saisir les opportunités dans les terrains les plus difficiles. Quand Dieu te plante dans un terrain, même s'il est difficile, n'utilise pas cela pour faire une excuse pour échouer, mais perçois cela comme une opportunité pour grandir et voir la gloire de Dieu. Ça, c'est une perception encore. On parlait de perception qui motive notre foi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela. Si tu es dans un terrain difficile, quelle perception tu as de ta situation? Seigneur, tu vois combien c'est difficile, combien je souffre, ôte-moi de là. Beaucoup de gens prient comme ça. Et souvent, ils manquent d'une opportunité. Ils manquent de perception. Pour eux, cette perception, c'est « il faut que je fuis ». Et les choses iront mieux. Et quand ils sont dans un autre endroit, les choses continuent à mal aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la même perception. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Joseph. Il a saisi des opportunités pour grandir en ayant une chose dans son imagination, les promesses que Dieu lui avait données des années plus tôt. Joseph aurait pu être le pire des échecs. Il aurait pu ne pas accomplir la volonté de Dieu.
Mais
je vous ai dit une chose, je ne connais pas quelqu'un qui est fort dans la foi, qui n'a pas une mentalité puissante dans les choses qu'il voit, dans son imagination. Si ton imagination est faible, si ta pensée est faible, si tes mécaniques de pensée sont faibles et qui ne sont pas changées par la parole de Dieu, je
vais te
dire une chose, ta foi sera faible. Ta foi sera faible. Parce que tu as une perception des choses qui est selon la chair
et
qui n'est pas selon Dieu. Comment perçois-tu les situations? Pour te lamenter? Ou pour saisir une opportunité? Comment tu perçois les autres? Souvent, c'est le problème avec les chrétiens. Comment est-ce que tu perçois les autres? Est-ce que tu perçois les autres toujours avec leurs défauts? Et que tu les classifies par rapport à leurs défauts et au moindre faux pas, tu frappes. Ou est-ce qu'au contraire, tu perçois les autres qui peut-être ont des travers? Je ne parle pas de gens qui ont des travers réguliers, constamment, pendant des années et des années, qui font ressortir un certain nombre de choses qui sont mauvaises. Quelqu'un a dit une chose. Dans ce monde, il n'y aurait que 10% de personnes foncièrement mauvaises. Et 90% de gens qui ont un potentiel pour être transformés. Comment est-ce que tu perçois les gens? Est-ce que tu perçois les gens te disant « Ah, celui-ci, il m'intéresse parce que je peux pomper. Je peux en retirer un avantage. » Comment est-ce que tu perçois les gens? Ou est-ce que tu perçois les gens en te disant
«
Avec ces personnes, on pourra faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. » Non, il y a du travail. Il y a du travail relationnel. Il y a du travail où il faut que nous puissions être ensemble. Et puis, il y a des moments qui ne sont peut-être pas faciles. Mais ce n'est pas ça qu'on regarde.
Ce
n'est pas les moments où on ne sera pas d'accord. Ce n'est pas les moments où ça sera difficile. Mais c'est vers quoi on veut converger. Quand tu t'arrêtes tout le temps aux petites circonstances à droite et à gauche, ça veut dire que ta perception est mauvaise. Et si ta perception est mauvaise, qu'elle n'est pas divine, tu n'arriveras à rien pour créer des réseaux de relations. Et sache une chose, si tu veux réaliser de grandes choses pour le Seigneur, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Tout seul, tu ne pourras jamais réaliser le grand rêve que Dieu t'a donné. Tu auras besoin des autres. Tu auras besoin d'investir chez les autres. Et ils vont investir aussi chez toi. Et ensemble, peut-être que tu seras le responsable. Peut-être que tu ne le seras pas, peu importe. Mais ensemble, vous arriverez à réaliser quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que pour nous, notre perception des autres, c'est la compétition, les querelles, les jalousies, ou est-ce que notre perception des autres, c'est un potentiel pour réaliser des œuvres de Dieu? Comment est-ce que tu perçois les autres? Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une mauvaise perception. Tout le monde a une chair. Y a-t-il des anges parmi nous? Non, nous avons tous une chair. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Maintenant, comment tu perçois quelqu'un? C'est très important dans la vie. Si tu perçois selon une façon divine, Dieu te donnera les meilleures personnes. Ou des gens peut-être qui ont un potentiel qui ne sont pas encore formés. Tu vas les aider. Tu vas les préparer. Et ce sont des gens qui vont être là et qui vont servir dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Ça, c'est une perception divine. Maintenant, comment est-ce que tu perçois le diable? Est-ce que pour toi, le diable, c'est celui qui est tout le temps en train de te faire peur?
Tu
es tout le temps en train de prier ce genre de prière de soi-disant protection toutes les 5 minutes. Tu sors de la maison, tu dis au nom de Jésus, je lis le diable, j'empêche le diable de m'empêcher de venir à l'église.
Il
y a des gens qui prient comme ça. Des gens qui ont une perspective du diable comme si c'était lui, le grand géant, qui était assis sur le trône. Il y a des gens comme ça qui prient des trucs bizarres et inutiles. Parce qu'ils ont une mauvaise perception. La Bible nous dit clairement que notre Jésus a dépouillé les dominations, que nous n'appartenons plus à l'ennemi, que nous avons été transportés d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres, où le diable avait un pouvoir légal sur nous. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu, où nous ne sommes plus la propriété de l'ennemi. Perçois le diable comme la parole de Dieu te montre qui il est. Arrête de jouer les super spirituels avec des espèces de trucs bizarroïdes. Parce que ça ne t'amènera à rien. Si ce n'est à avoir une mauvaise perception. Et rappelez-vous, la perception que nous avons amène les fondations de notre foi. Amène à stimuler notre foi. Et plus tu crois des choses qui sont selon la parole de Dieu, plus tu stimules ton imagination par rapport aux choses divines, plus tu vois loin, plus tu verras les choses se produire. Parce que Dieu a besoin de travailler au travers de toi. Il travaille par révélation et inspiration dans ton esprit. Mais il travaille aussi avec ta pensée, avec ta méditation, avec ton imagination, avec un mot important que je vais vous dire ici, ta créativité. De ta créativité quand elle est sanctifiée, tu peux être capable de faire les choses les plus extraordinaires. Rappelle-toi ce que Proverbe nous dit: ce que pense un homme, c'est tel qu'il est. L'environnement dans lequel tu vis, c'est l'environnement dans lequel tu penses. C'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Ce que tu penses à l'intérieur, ce que tu crois, ce que tu imagines, est le reflet de ce que tu es aujourd'hui et de ce que tu seras demain. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tu travailles sur cette partie de ta vie.
Si
ta mentalité n'est pas transformée, si ta perception n'est pas transformée, si elle n'est pas sanctifiée par la parole de Dieu, si elle n'est pas influencée par sa présence, tu ne verras rien devant toi. Et si tu ne vois rien devant toi, tu seras sans frein et tu vas tourner en rond. Et tu resteras dans le désert. Tu n'amèneras aucune chose que Dieu t'a promise à la réalisation. Tu vas prier, tu vas faire toutes sortes de choses, mais ça n'amènera rien à la réalisation. Pourquoi? Parce que dans ta mentalité, rien n'a été changé. Donc tu restes avec ce que tu vois aujourd'hui, sans voir ce qu'il y aura demain, après-demain.
Dans
ça, mes frères et sœurs, c'est un moteur exceptionnel. C'est pour ça je vous rappelle que Acte 2 nous dit
que
Dieu va nous donner des prophéties, que Dieu nous donne des visions, que Dieu nous donne des songes, justement pour que nous puissions voir là où il nous veut prophétiquement. Mais pour que ça se réalise, il va falloir que tu travailles tes façons de penser. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons prier ensemble.